Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à toutes et à tous pour le dernier café scientifique de cette année 2012. Et comme vous le savez, ce soir c'est bien sûr la bagnole, la voiture. Alors bonne pour la casse ou pas, le tout bagnole, plein gaz ou à la casse, une question un peu iconoclaste mais inévitable, inéluctable. On ne peut pas continuer avec le tout à la bagnole. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous écoutez ceux d'entre vous qui sont des fidèles auditeurs de la radio suisse romande, ont remarqué que cette semaine, l'émission Vacarme consacre toute la semaine 5 reportages à la voiture, avec un titre qui ressemble au nôtre et qui dit « La voiture dans le mur ». C'est une collusion de dates, parce qu'il y a eu des inspirations croisées, mais la voiture fait débat, continue de faire débat. On se demandait d'ailleurs s'il allait y avoir beaucoup de monde ce soir ou si le thème voiture, bagnole était dépassé. Alors vous êtes dans la moyenne des influences, donc la voiture continue d'interpeller et de faire discuter. On a 5 invités ce soir avec nous. Et puis comme on va parler voiture, chiffres, techniques, stratégies, perspectives et environnement, on va commencer par leur demander de se présenter en nous donnant chacune et chacun d'entre elles et d'entre eux, leur relation personnelle à la voiture. Parce qu'on sait que la voiture, c'est quelque chose d'éminemment émotionnel, relationnel, personnel. On verra ce qu'ils ont à nous dire. Et puis, on va commencer, bien sûr, par les dames. Mais je vais d'abord quand même citer leur nom avant de donner leur fonction, pour que vous sachiez qui est là. Donc, nous avons Madame Marion Bellil. Je dirai sa fonction après. Marie-Claude Prêtrement, Gilles Graff, Philippe Bury et Mathieu Béglin. Et alors, honneur aux dames, je vais demander à Marion Bellil, qui est responsable de la section de Châtel de Mobility, de nous dire quelle est votre relation à la voiture.
Bonsoir. Pour moi, la voiture, c'est un objet utilitaire. Donc, c'est vrai que j'ai l'occasion de conduire des types de voitures assez différents. Et puis, je choisis celle qui est le plus utile pour moi. Donc, quand c'est une Renault Kangoo, j'apprécie parce qu'il y a de la place derrière. Si j'ai besoin d'une plus petite voiture, bien sûr, je ne serai peut-être pas contente d'avoir la Kangoo, alors je vais choisir une autre. Voilà, c'est comme ça que je pourrais définir mon rapport à la voiture.
Et si je décode entre les mots, vous n'avez pas de voiture personnelle à vous.
Voilà, c'est juste.
D'accord. Alors maintenant, deuxième dame de ce débat, Marie-Claire Prêtrement, membre de l'ATE neuchâteloise. Quelle est votre relation à la bagnole?
Alors moi j'ai une voiture, mais je suis comme ma voisine. L'utilisation de la voiture, je me sens très libre par rapport à ça. La voiture, elle doit être utile. J'aime beaucoup l'utiliser pour transporter du matériel, transporter toutes sortes de choses. J'aime plier les sièges, les enlever, les sièges arrière. C'est uniquement ça, mais je n'ai pas d'intérêt autre à la voiture.
Alors là, on a tout le bon sens féminin, il faut que ce soit utile et fonctionnel. On va voir du côté de ces messieurs si ça change un petit peu de la relation qu'on a. Alors, monsieur Bury, vous êtes le directeur du SCAN, le service cantonal des automobiles du canton de Neuchâtel. Alors, bien sûr, vous avez la relation professionnelle, on en parlera, mais au niveau personnel, quelle est votre relation avec votre voiture, si vous en avez une?
Oui, effectivement, j'en ai une, donc bonsoir à tous. Alors, j'ai une relation un peu plus passionnée à la voiture que les deux précédentes oratrices. Pour moi, bon, c'est déjà ma formation professionnelle de base. Je suis ingénieur en technique automobile. C'est aussi mon activité professionnelle actuelle. Et puis, c'est un objet qui m'a toujours passionné. Je dirais, technologiquement parlant, la voiture reste une des grandes réussites du monde moderne. Et c'est pourquoi l'objet voiture est pour moi, on peut dire, une passion.
D'accord. Réussite, pour certains, une calamité. À côté de vous, Gilles Graff, pour lui aussi, c'est une réussite, au niveau professionnel en tout cas. Gilles Graff, qui est président de l'Association des moniteurs d'auto-école du canton de Neuchâtel, des montagnes. Alors, quelle relation avec la voiture, personnelle, avec votre voiture?
Mais une relation plutôt sympa, parce que finalement, c'est grâce à ça que je peux vivre aussi. Mais au niveau privé, c'est clair que c'est un instrument de liberté qui est absolument exceptionnel, que rien ne peut remplacer. Au niveau pratique aussi, là je rejoins tout à fait ma collègue d'à côté, c'est vrai que c'est quand même plus pratique de pouvoir charger un coffre que d'avoir un sac de touriste de 200 kilos sur le dos. C'est vrai que c'est une image de liberté qui est extraordinaire, et puis aussi au niveau de la technologie, au niveau des possibilités qu'on peut faire, au niveau de l'avenir, de ce qui peut se produire, c'est vrai que j'ai une très bonne relation avec la voiture.
Je peux me permettre une question un brin indiscrète. Est-ce qu'un moniteur d'auto-école a une voiture personnelle à côté de sa voiture de travail?
Oui, parce que sans ça, tout le temps dans son bureau, ce n'est pas forcément terrible.
Donc, il y a une deuxième voiture?
Alors, j'ai une deuxième voiture, j'ai une troisième voiture, j'ai des voitures. J'aime les voitures, donc en général. Et puis, heureusement, je ne prends pas plus de place que les autres, parce que finalement, j'en utilise qu'une à la fois. Hein. Mais ma femme a aussi le droit d'avoir sa voiture. C'est comme ça chez nous.
D'accord. Puis, dernier intervenant de cette table ronde qui n'a rien de rond, qui est rectiligne comme une autoroute, Mathieu Béglin. Dites-nous quel est votre rapport. Alors, bah, vous êtes président de la section Neuchâtel-Place du Parti Socialiste, donc ce n'est pas les Verts, c'est le PS, où on a aussi une fibre environnementale sans doute, mais quelle est votre relation à la voiture?
J'ai une relation très distante parce que non seulement je n'ai pas de voiture, mais de surcroît je n'ai pas le permis. Et de façon volontaire, c'est pas que je l'ai raté trois fois, mais par contre, j'ai une relation assez sympathique à la voiture, en ce sens que je me suis toujours dit qu'à moins d'avoir les moyens de rouler en Aston Martin, je ne passerai jamais mon permis, parce que quitte à polluer et puis à mettre en danger ma sécurité et celle des autres, autant que ça ait au moins de l'allure et de la gueule. Donc j'aime assez les belles lignes et puis la belle mécanique, ça me pose pas spécialement de problème. Après, je pense que comme moyen individuel de locomotion, on peut trouver autre chose, et puis qu'on a meilleur temps, en termes de choix de société, de ne pas favoriser l'utilisation de la voiture et de la limiter plutôt à ce que ces dames préconisaient.
Voilà pour les présentations et les relations à la voiture. J'imagine que chacun d'entre vous s'est dit, puis moi, quelle est ma relation avec ma voiture? C'est toujours intéressant de se poser la question. Pour lancer peut-être la discussion, j'ai envie de demander à Marie-Claire Petremant de l'ATE. On a entendu Gilles Graff dire... C'est une des plus belles réussites de l'homme, de l'humanité, la voiture, c'est l'esprit de la liberté. Pour d'autres, c'est une calamité. Juste un chiffre avant le débat, il y a actuellement sur Terre, le chiffre est connu, hein, c'est 1 milliard de voitures qui circulent. J'ai fait le calcul, 1 milliard de voitures, ça fait un cordon de voitures qui fait le tour de la planète. C'est assez spectaculaire rien que de penser à ça, mais en 2030, il y aura 2 milliards de voitures. Ça, c'est inéluctable, donc on fera 2 fois le tour de la planète avec des voitures. Moi, j'imagine qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Déjà, ça sera peut-être trop loin. Je vois que j'ai des graves sourcils. Mais Marie-Claire Petremant, qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez que pour des gens, pour beaucoup de gens, hein, on peut regarder les publicités, la voiture reste un symbole de liberté, de puissance, de réussite. Est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir? Est-ce que le tout bagnole et la gloire de la voiture ont encore de beaux jours devant eux?
Pour moi, la voiture, symbole de liberté, c'est quelque chose de passé. Aujourd'hui, on est plus dans les bouchons quand on est en voiture. Moi, j'ai une voiture, mais je l'utilise le moins possible. Je me déplace le plus possible en train, à pied, à vélo. C'est surtout à vélo que j'ai un grand sentiment de liberté, mais alors absolument pas en voiture.
Monsieur Bury, par rapport à... Vous avez dit ingénieur en technique automobile. Est-ce que la voiture... Ça fait des années qu'on parle de la voiture hybride, énergie renouvelable, bioéthanol, l'électricité, tout ça. Est-ce qu'on est vraiment entré dans une nouvelle ère de la voiture ou est-ce qu'elle pollue encore malgré tout trop, même en consommant 3 litres, 3 litres et demi à ce niveau-là? Est-ce que c'est une réussite maintenant, les nouvelles voitures?
Bon, les progrès en matière de consommation de carburant sont effectivement très significatifs ces dernières années. Je dirais cette année 2012... On vit la vente en série des premiers véhicules électriques, hein, chez les marques Renault et Mitsubishi, entre autres, qui proposent des voitures à des prix accessibles avec une mobilité uniquement électrique. Alors, pour moi, je tiens quand même à préciser que la voiture, si c'est un objet fantastique pour les déplacements, c'est pas forcément le seul moyen que je préconiserais effectivement pour la mobilité. Je crois que la mobilité doit être complémentaire entre les différents moyens. Et puis, la voiture fait partie de ces moyens de mobilité. Je crois qu'on les oppose, trop souvent, le train contre la voiture, la mobilité douce contre la voiture aussi. Et je crois qu'on doit apprendre finalement à utiliser de manière intelligente les différents moyens de mobilité. Et en fonction du trajet que vous avez effectué, en fonction de la situation aussi, qu'elle soit professionnelle ou privée, vous allez choisir la meilleure combinaison des différents moyens pour avoir effectivement, le but est d'avoir quand même un impact environnemental le plus réduit possible.
Alors j'ai vu que Gilles Graff opinait du chef, mais je voudrais juste entendre sur cette question de la complémentarité, puis peut-être aussi éventuellement le covoiturage. Marion Bellil, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ?
Alors effectivement, la voiture est tout à fait complémentaire, si on veut, au transport public, c'est-à-dire que au lieu d'opposer justement aller tout en voiture ou tout en transport public, on peut très bien, si on veut, bénéficier des avantages des deux. Les avantages des transports publics, ils ne sont pas seulement environnementaux, ils sont aussi pour le porte-monnaie. Une fois qu'on a l'abonnement général, on peut rouler toute l'année en transport public, ça ne va pas nous coûter plus cher. Donc il y a beaucoup de personnes qui font ce choix par raison économique. Et puis effectivement, au lieu de renoncer complètement à la liberté que procure la voiture, à la possibilité de transporter des charges, Mobility offre cette complémentarité. Donc c'est vrai que ça tombe pile dans notre activité.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un réel engouement, une réelle notoriété en Suisse pour Mobility ou pour le covoiturage? J'ai vu aujourd'hui qu'en France, le site de covoiturage, ils en sont à 8 millions de personnes inscrites. Alors bon, il y a 50 millions de Français, mais la proportion en France par rapport à la Suisse, où je crois qu'il y a 8000 inscrits sur le site de covoiturage, pourquoi les Suisses ne se lancent pas, ne sont pas plus friands de ce genre d'offres, y compris Mobility aussi?
Alors déjà, je veux juste préciser, donc le covoiturage, c'est tout à fait différent de Mobility.
On est d'accord.
Mobility, c'est l'autopartage, donc on prend une voiture quand on en a besoin, mais on est tout seul à la conduire, on va où on veut. Alors le covoiturage, c'est vraiment faire le même trajet avec quelqu'un qu'on ne connaît peut-être pas au départ. Donc moi, c'est vrai que je ne connais pas très bien encore ces sites suisses qui proposent du covoiturage. C'est assez difficile à organiser pour un trajet ponctuel. Je sais que ce qui marche le mieux, en fait, c'est les covoiturages réguliers. Donc des collègues qui vont au travail tous les jours, qui s'arrangent pour prendre une semaine la voiture d'un, une semaine la voiture de l'autre. Ça, je pense que ça se met vraiment en place aussi en Suisse. Mais pour ce qui est des trajets plus ponctuels, alors je ne suis pas très au courant.
Gilles Graff, sur le covoiturage, en tant que moniteur d'auto-école, est-ce que vous pourriez faire des leçons de conduite en profitant de transporter quelqu'un quelque part? Non, c'est une boutade, mais... Non, mais on pourrait imaginer.
Mais on peut imaginer, mais je vois la tête de l'élève déjà maintenant, donc je ne crois pas que ça marcherait bien. Mais concernant le covoiturage, ce n'est pas vraiment mon truc, enfin...
Mais pourquoi ?
D'échanger les voitures, mais les gens sont tellement...
Non, ce n'est pas un échange de voitures, c'est justement des pendulaires qui se mettent d'accord pour dire, si toi tu bosses à 8 heures là et moi à telle heure là...
Non, covoiturage, d'accord. Mais on parle aussi en France du truc de prendre une voiture et puis se la passer, comme j'ai entendu juste avant. Donc une voiture personnelle, quand on voit certaines personnes qui font 4 fois le tour de leur voiture une fois qu'ils l'ont parquée pendant une demi-heure pour voir s'il n'y a au moins pas une petite raie, ça n'aura peut-être pas forcément un impact terrible. Concernant le covoiturage, non, il y a quand même des transports en commun, il y a beaucoup de choses qui rendent pas mal service. Moi, je ne suis pas un ayatollah de la voiture, même que j'adore ça. Ça ne me viendrait pas l'idée de faire Neuchâtel-Zurich en bagnole. Franchement, je trouve que ça serait plutôt con. D'autant plus que seul dans une voiture, contrairement à ce qui se dit beaucoup, même sans l'abonnement général, même sans rien du tout, et puis là, peut-être les CFF vont me dire merci, mais je ne sais pas, mais un voyage en train coûte beaucoup moins cher Neuchâtel-Zurich en voiture, il faut être logique. Donc si c'est pour être pris dans des bouchons, je n'ai pas forcément l'étiquette à aimer ça, marquer quand dans le dos et puis se promener avec une voiture dans des bouchons.
Donc c'est un moniteur d'auto-école qui nous dit qu'effectivement, la voiture coûte plus cher que le train.
Mais c'est certain, c'est certain.
Alors Mathieu Béglin, vous êtes l'anti-voiture, mais j'ai envie de vous poser la question un peu provoque quand même. Est-ce que vous arrivez dans votre vie quotidienne, vos déplacements, vos loisirs, à éviter la voiture?
Mais autant que possible, ça doit m'arriver entre 5 et 6 fois par année de me dire, tiens, je ne peux pas faire telle ou telle chose parce que je n'ai pas de voiture pour des questions d'horaire de transport public. Mais habitant en ville, et puis étant dans un pays qui a un des réseaux de transport public les plus denses du monde, je peux le faire. C'est là où je rebondis. Le covoiturage en France, il a plus d'essor parce qu'il n'y a pas de transport public, à part les grands axes de train ou etc. Ça m'est arrivé une fois de renoncer à un lieu de vacances parce que c'était pas possible. Le TGV arrivait 2 heures après le seul bus qui passe toutes les 36 heures. Puis on va ailleurs, voilà. Mais je veux dire, ça c'est la situation de la France, respectivement des États-Unis. Mais là, il y a une question d'échelle, et je pense que c'est lié à ces aspects-là. Après, on parle beaucoup de liberté. Je comprends l'idée de dire, tiens, je prends ma voiture, je vais faire un tour, me changer les idées, mais on n'est pas libre quand on est derrière le volant, et je ne pense pas que monsieur le moniteur d'auto-école me contredira, on doit être attentif à la route, à ce qui se passe, et ainsi de suite. Donc, dans un train, on est libre. On est beaucoup plus libre. Alors, il y a une contrainte horaire qui est ce qu'elle est, mais qui quand même permet de faire pas mal de choses. Mais on peut bouquiner, on peut écouter de la musique, on peut regarder un film, on peut discuter avec des voisins, on peut faire de nouvelles connaissances. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire dans un train qu'il est plus difficile de faire quand on est en voiture, mobilisé par le volant. De ce point de vue-là, je pense que Mobility est vraiment un outil d'avenir qui permet de composer entre les besoins immédiats qu'on peut avoir. On peut aller en train, puis ensuite, si on se rend dans un endroit peu accessible, là, on peut faire du transfert modal.
Comment, je le demande à tout le monde, comment vous expliquez qu'il y a ce côté illusion de liberté, vu qu'on doit, il y a les bouchons, il y a les contingences, il y a les radars, il y a les frais, il y a les coûts. Pourtant, ça reste un symbole par excellence de liberté individuelle, la voiture. Donc, c'est peut-être, ça nous poursuit, ça nous pourchasse. Donc, à voir. Je vous propose d'ouvrir la discussion avec le public, parce que c'est la règle au Café Scientifique. Alors, je ne sais pas si à ce stade, il y a quelqu'un qui est déjà interpellé par l'un ou l'autre des propos que vous avez entendus, ou des questions que vous voulez poser. Alors, aux professionnels de la formation, aux professionnels de la technique, après ben, aux gens de la TE ou bien de Mobility, ou à l'anti-voiture qui est à l'extrémité droite de la table. Ça ne va pas lui plaire que je dise ça comme ça, mais c'est quand même une réalité. Est-ce qu'il y a des questions ou des interpellations ? Pas à ce stade. Donc si jamais vous vous manifestez, il n'y a pas de problème, vous levez la main, vous faites un petit geste. Moi, j'aimerais juste poser la question à Gilles Graff. On l'a entendu dire qu'il fallait vraiment être, il a dit con, je veux dire stupide, pour penser qu'aller à Zurich, ça va coûter moins cher en allant en voiture. Mais il a quand même dit au début, il n'y a rien qui peut remplacer la voiture, dans la première intervention. Hein, c'est une belle intervention, il n'y a rien qui peut remplacer. Est-ce que là, il n'y a pas quand même un changement de paradigme qui fait que, immanquablement, dans les années qui viennent, pour des questions de coûts, de pétrole, d'engorgement du trafic, on doit trouver d'autres solutions?
Oui, je vois que tu suis, c'est pas mal, parce qu'effectivement...
Il l'a dit.
Effectivement, je l'ai dit.
Il l'a dit, rien ne remplace
là. Mais bon, c'est comme beaucoup de choses, quand on l'a dit, des fois, on va peut-être pas jusqu'à la fin, parce qu'on croit qu'on parle à un public qui va traduire ce qu'on dit. Mais c'est vrai que la voiture est irremplaçable dans beaucoup de cas, mais pas dans tous les cas. C'est-à-dire que si, par exemple, vous partez à Schwitz depuis Chaux-de-Fonds, c'est 5h15 de train. Si vous allez en voiture... Même s'il y a des bouchons, vous ne faites pas 3 heures. Un bon vélo moteur qui n'est pas maquillé, il ne fait pas 5h15 pour la Schwitz. Mais bon, Schwitz, c'est 10 km.
Il faut vouloir y aller.
L'histoire m'est arrivée, il faut le vouloir. Disons que c'est en-dessus de Schwitz, c'est 10 km en-dessus. C'est comme si on venait à Neuchâtel et qu'on allait aux Auge-Nevée. J'ai dû finir en car postal. Je n'ai pas fini à dos de mulet, mais j'aurais peut-être pu. Mais c'est vrai que là, c'est une situation qui est intolérable et qui est absurde, qui est impossible. Chaux-de-Fonds-Schwitz, c'est 5h15, dans le meilleur des cas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ben, je passe peut-être par les grisons, mais ce n'était pas le cas.
Alors, au niveau statistique, pour montrer peut-être qu'il y a quand même un changement dans la population, et surtout du côté des jeunes, il y a un chiffre qui, moi, m'a beaucoup surpris, mais c'est aussi la preuve que les années passent pour tout le monde et que je vieillis comme tout le monde. C'est quand on arrivait, à mon époque, mais sans doute à la majorité des gens qui sont ici, quand on arrive autour des 18-20 ans, un des projets qu'on avait tous, c'était de passer le permis. C'était vraiment un cap, c'était presque un rituel. Si Jacques Hénard était là, il dirait oui, c'était un rituel de passage. On arrivait à 18 ans, on passait le permis. Et là, on a Mathieu Béglin qui n'a pas passé son permis. Et les statistiques montrent que chez les jeunes qui arrivent à 18 ans aujourd'hui, il y a un effondrement des jeunes qui passent le permis. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je crois qu'on est passé de 60 à 70% à moins de 50% de jeunes.
1 sur 5 pour les 20 ans.
Voilà, donc vraiment, la courbe, elle est spectaculairement à la baisse. Les jeunes qui arrivent à 18 ans, ce n'est plus un souci. Ce qui fait dire à certains sociologues qu'on est passé maintenant que c'est les jeunes qui passent à la génération transport public. Alors, je ne sais pas si, M. Burry, vous avez des chiffres. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on passe moins le permis, que les jeunes se désintéressent de la voiture ?
Alors, effectivement, on peut considérer qu'il y a eu une évolution où, de manière systématique, si on prend une période, disons, 10 ans en arrière, de manière systématique, un jeune qui avait l'âge de 18 ans passait son permis de voiture. Et puis, c'était quasiment la même chose avec le cyclomoteur. Hein, à l'époque, la personne qui avait 14 ans faisait systématiquement son permis de cyclomoteur. C'est effectivement une habitude qui est en diminution. Néanmoins, je dirais le nombre de jeunes conducteurs qui sont formés par année est assez régulier. Et c'est régulier, mais paradoxalement, la population neuchâteloise augmente. Donc, ça signifie qu'il
y a moins d'intérêt.
Il y a moins, effectivement. Donc, la tendance est exacte. Ce qu'on rencontre, par contre, c'est clair que durant la période des études, on a peut-être un besoin de mobilité qui est différent ensuite de la vie professionnelle. Et puis, c'est souvent au moment d'entrer dans la vie professionnelle que le besoin de permis de conduire se fait sentir et que là, les personnes font leur formation. Ça signifie qu'ils ne le font pas peut-être à 18 ans, mais ils vont le faire à 22 ou 25 ans. Alors, voilà, c'est un peu ce changement-là qui est vécu.
Donc, plutôt un décalage dans le temps comme un désintérêt.
Voilà, effectivement. Ouais. On peut quand même, sur une population neuchâteloise donc de 170 000 habitants, on a quand même 116 000 détenteurs d'un permis de conduire.
Ah. Alors, dans l'assistance ce soir, petit sondage improvisé. Qui est détenteur d'un permis de conduire voiture ? Levez la main. Voilà, alors ça va être plus simple de faire dans l'autre sens. Qui n'est pas détenteur d'un permis de voiture ? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, c'est à peu près cette proportion-là. Donc, voilà. Est-ce qu'à ce stade, il y a des interventions, une question ? Oui, monsieur, on va vous donner un micro, si on peut bien vous entendre.
Bonsoir, Stéphane Dumuy. Je suis également moniteur auto-école, je le précise comme ça. J'avais une question par rapport aux avancées technologiques des voitures, en particulier les voitures 100% électriques, qu'on nous sert un petit peu comme la panacée. Et j'aurais voulu avoir un petit peu l'avis des intervenants concernant justement le bien fondé et puis éventuellement les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Du 100% électrique, donc.
Alors, je ne sais pas à quel intervenant on veut prendre la parole, mais je pense que M. Buric a le micro. Il est peut-être le mieux adapté pour nous faire un petit panorama de la voiture électrique aujourd'hui.
Oui, écoutez, j'ai fait mes études à l'école d'ingénieurs de Bienne. En 91, j'ai terminé. C'était la période du Spirit of Bill. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était une course de voitures solaires à travers l'Australie. Et l'école d'ingénieurs de Bienne avait développé un véhicule incroyablement performant qui roulait à l'énergie solaire. Donc on a cette année aussi eu, dans un autre domaine, mais quelque chose d'un peu similaire avec M. Donjon qui a fait le tour du monde en bateau. Je pense que la mobilité électrique, effectivement, est l'avenir de l'automobile, puisqu'il est indiscutable que le pétrole sera une fois aura disparu et puis que nous n'aurons plus la possibilité d'utiliser ces énergies fossiles. Donc je pense que le véhicule électrique est une solution intelligente. Souvent, on conteste son rayon d'action qui est pas toujours suffisant. Néanmoins, il existe une technologie qui est aussi apparue en 2012 qui s'appelle le Range Extender qui est une technologie où on peut imager, je dirais, on prend une génératrice dans le coffre pour recharger les batteries et prolonger ainsi la possibilité de faire plus de kilomètres.
C'est notamment, on récupère l'énergie par exemple du freinage, c'est ça ?
Alors ça, de toute manière, donc tous les véhicules électriques, y compris les véhicules hybrides, récupèrent l'énergie du freinage. C'est d'ailleurs le secret du véhicule hybride. Donc ça reste un moteur à combustion, l'élément principal qui propulse le véhicule. Néanmoins, justement, il y a des batteries qui sont là pour que, lors des décélérations, l'énergie vienne dans les batteries et puisse être réutilisée. Alors, dans le cadre du Range Extender, c'est l'inverse. La mobilité principale, c'est la mobilité électrique. Et puis, le carburant vient pour recharger les batteries lors des longs trajets.
Alors, Madame Petremont, du côté de l'ATE, quel regard vous avez sur ces voitures hybrides, les voitures électriques ? Est-ce que vous essayez de soutenir, de promouvoir et de faire que les gens qui achètent malgré tout une voiture se tournent plutôt vers une voiture hybride que vers une deux chevaux pétaradante ?
On essaye d'encourager évidemment les voitures qui consomment le moins possible, donc le moins possible d'essence.
Mais vous êtes convaincu par les voitures qui sont proposées, les voitures hybrides qu'on voit sur le marché maintenant ? Ça vous convainc ou vous êtes encore sceptique ?
Écoutez, nous, notre ligne, c'est vraiment d'utiliser le maximum les transports publics, parce que la voiture électrique, la voiture hybride, ça pose toujours des problèmes aussi d'utilisation de l'espace. Nous, on privilégie toujours l'utilisation des transports publics.
Alors, Mathieu Béglin, au niveau politique, est-ce que le monde politique agit et fait une bonne promotion des transports publics avec une offre satisfaisante. On peut parler du canton de Neuchâtel, par exemple. On n'a pas encore évoqué le RER, mais ça allait immanquablement venir. C'est vrai que dans le canton de Neuchâtel, par rapport à Gilles Graff qui a parlé de Neuchâtel-Schwitz 5 heures, c'est vrai que quand on va à Bâle ou à Zurich, puis qu'on prend leur U-Bahn ou leur RER à eux, on est stupéfait de voir qu'on doit faire 30 minutes pour faire la Chaux-de-Fonds-Neuchâtel. C'est vrai que ce n'est pas très sexy ni enthousiasmant. Alors, le monde politique, est-ce qu'il n'a pas une grosse responsabilité dans ces atermoiements autour de l'évolution technologique et aussi du transfert modal route-transport public?
Disons que le monde politique se pose pas mal de questions. Juste une parenthèse, heureusement, il y a peu de pendulaires Chaux-de-Fonds-Schwitz. Cela étant, comment dire, le premier élément déjà, c'est que la voiture, elle est centrale dans le défi énergétique par rapport à la question de monsieur, et que finalement, que la voiture soit électrique ou qu'elle soit à explosion, un moteur à explosion, il faut quand même se poser la question de savoir comment on fait pour l'alimenter. Et on ne peut pas vouloir sortir du nucléaire d'un côté et de l'autre côté avoir l'ambition de remplacer tous les véhicules par des véhicules électriques, parce qu'on ne sortira jamais du nucléaire. On devra même construire à terme de nouvelles centrales. Et donc, toute la question est de savoir voilà, comment on fait et si alors on peut alimenter ça par des panneaux solaires. Est-ce que si on fait des parkings couverts, on les couvre de panneaux solaires, comme ça existe, hein, il y a des entreprises qui font ça, voilà. Maintenant, la ville de Neuchâtel, moi je peux prendre ça déjà comme exemple, on fait beaucoup de choses. On subventionne les abonnements ondes vertes, on subventionne les abonnements ondes vertes également au mois. On a des incitations, alors on avait fait les vélos électriques, et puis maintenant que les prix ont baissé aussi, on subventionne les scooters électriques. Et là, on a quelque chose d'assez intelligent en termes de pollution directe de l'atmosphère, c'est-à-dire qu'on passe vraiment d'un moteur à explosion à un moteur qui l'est pas. Mais on a un autre problème avec ça, c'est qu'ils font pas de bruit. Alors, si dans les séries américaines, on dit que pour faire un drive-by, passer puis fusiller les gens, c'est pratique parce que personne ne nous entend venir, il y a aussi un problème d'accident, de risque. Alors, j'entendais que des gens pensaient réintroduire des bruits de moteur quand même, mais autrement, pour qu'on entende quand même ces véhicules.
Des clochettes, comme sur le traîneau du Père Noël.
Mais après, comme le disait très justement Mme Petremont, en termes d'utilisation de l'espace, de besoin de volume, les transports publics sont préférables, bien sûr, aux transports individuels, aussi pour les raisons énergétiques que je donnais.
Marion Bellil, en fait, vous avez peut-être la panacée, c'est qu'il y a trop de voitures qui consomment trop, et la meilleure solution, c'est d'utiliser moins de voitures à plusieurs.
Disons que la meilleure solution, c'est de combiner toutes ces différentes solutions entre elles. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que, d'une part, les transports publics, d'autre part, des véhicules individuels, mais éventuellement partagés, d'autre part, la mobilité douce, c'est vraiment trois piliers qui se complètent. Et si on pouvait en fait avoir une solution qui redonne à chaque mode sa juste place, ça résoudrait une bonne partie des problèmes.
Mesdames, messieurs, est-ce qu'il y a une question, une proposition, une remarque dans l'assistance? Pas pour le moment. Gilles Graff, quand on est moniteur d'auto-école et qu'on a entendu, il y a eu toute la problématique, les plus acides, vraiment la voiture qui pollue, vraiment la vague anti-voiture, les dimanches sans voiture. Est-ce que le moniteur d'auto-école, on peut poser la question à votre collègue, est-ce que vous avez le sentiment, c'est ce qu'on disait en préambule en discutant au moment du café, avant le début de ce café scientifique, que l'image de la voiture est devenue plus acceptable, plus politiquement correcte, et que donc peut-être c'est moins polémique, on est tous plus ou moins d'accord que la voiture va demeurer avec des aménagements, avec des moteurs hybrides, avec des nouvelles énergies, mais l'image de la voiture, est-ce qu'on peut dire sans scrupule, sans gêne, je suis moniteur d'auto-école, ou est-ce qu'on se fait encore reprendre de voler en disant voilà, la bagnole, ça continue?
Non, alors je crois pas du tout que l'image de la voiture est aussi ternie qu'on veut bien le dire, parce que il faut pas oublier une chose, les anti-voitures vraiment, vraiment intégristes qui sont contre la voiture, ils représentent une très très faible partie de la population.
C'est qui les intégristes pour vous qui sont...
Alors ça, je vous laisse... Je te laisse.
Parce qu'il y a deux dames à côté
non,
de
non,
vous.
Non, mais moi, quand j'entends qu'il devrait y avoir plus que des transports en commun, j'ai constaté une chose, c'est que dans les pays de l'Est, au moment où ils ont eu les moyens de s'acheter des voitures, les transports en commun ont eu beaucoup moins de succès. Et puis les bouchons ont eu plus de succès, c'est vrai, mais qu'ils continuent de sauter dans leurs voitures. Donc ils n'ont pas la nostalgie des transports en commun. Moi, je suis persuadé qu'on doit pouvoir, dans tous les cas, choisir son mode de transport. Celui qui aime le train, tant mieux. C'est très bien. On doit offrir la possibilité aux gens de se déplacer comme ils ont envie. Mais quand on voit dans n'importe quelle votation qu'on a eue dans le canton de Neuchâtel contre la voiture, c'est-à-dire on a quand même gagné avec quelques copains 5 référendums en 10 ans, ce qui est quand même pas mal. C'est-à-dire quand on veut taxer, mettre des parkages payants dans les montagnes de Châtelois, ça passe pas, c'est du 70% contre du 30%. Quand on entend les soirées de décembre, les rencontres de décembre par exemple, où il y avait quand même une forte connotation anti-voiture, là je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là-dedans? On est deux ou trois contre toute la meute en fait, parce qu'on se sentait vraiment, vraiment agressé, parce qu'on aimait la voiture. Qu'on aimait ce déplacement, qu'on laissait la liberté aux gens de choisir. Mais quand on arrive à un stade, qu'on voit que 5 référendums, c'est balayé par 70% des gens, on se dit quand même que dans ces soirées, comme les rencontres de décembre, ceux qui aiment la voiture, ils ne sont pas forcément présents.
Oui, Madame Petrevin.
Alors... Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on se rend compte, bon, qu'il y a peut-être un report dans le temps au niveau du permis de conduire, mais au niveau du fait de posséder une voiture, il y a quand même une évolution de la tendance. Et puis, il y a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui considèrent que de posséder une voiture, c'est plus une charge qu'une liberté, parce qu'il faut toujours s'occuper de chercher une place, il faut s'occuper d'aller l'amener au garage, etc., il faut l'entretenir. Et puis, il y a un désintérêt, il y a une tendance comme ça qui naît, qui s'affirme de se désintéresser, de posséder une voiture. Donc, ce n'est plus vraiment ressenti comme un absolu symbole de liberté.
Donc, quand même une évolution de route. Monsieur Burry ?
Ouais, j'ai un avis qui diverge un petit peu de ce qui vient de dire, parce que purement, de manière statistique, le parc véhicule neuchâtelois augmente chaque année. Il a augmenté de 1,6% de 2009 à 2010. Non, c'est pas vrai, de 2010 à 2011, et puis il a augmenté de 2,1% de 2011 à 2012. De plus, le parc global en Suisse
augmente aussi,
est en augmentation, et les prévisions de d'entreprises spécialisées voient pour 2030 une augmentation du parc de 30%. Donc, c'est-à-dire le canton de Zurich se pose actuellement le problème de la numérotation de ses véhicules, parce qu'on peut numéroter jusqu'à 999 999 actuellement avec le système de plaques suisse, et le canton de Zurich va probablement bientôt y arriver, malgré le fait qu'il soit un des cantons les mieux desservis en transport public. Alors, je pense que la mobilité devient plus variée, néanmoins la possession d'une voiture reste un élément important pour chaque citoyen.
Ça montre un peu le côté schizophrénique de notre société, avec tout à la bagnole, non. Madame Petremont qui dit, il y a les gens, c'est moins. Oui, on réfléchit plus, on s'en achète moins, mais il y en a toujours plus quand même. On va passer d'un milliard à deux milliards, plus 30% en Suisse d'ici 2030. Oui, à vous.
Oui, en plus, on n'augmente pas seulement le nombre des véhicules. Vous avez mentionné avant que maintenant on a de plus en plus de modèles qui sont plus économiques, mais en réalité, les Suisses choisissent les modèles qui sont plus de puissance et donc qui consomment plus.
Donc, autre aspect schizophrénique de notre société, ou en tout cas paradoxal, donc on veut moins de voitures, on les veut moins polluantes, mais on en achète toujours plus, c'est quand même les modèles les plus polluants. Monsieur Burry ?
Alors, je peux confirmer en partie effectivement ce que dit madame. On suit quelques indicateurs environnementaux dans le cadre du parc neuchâtelois, et puis l'indicateur du poids total moyen des véhicules est en augmentation, effectivement. C'est-à-dire que les gens achètent des voitures en moyenne de plus en plus lourdes. Et physiquement, il n'y a pas de miracle, plus le véhicule est lourd, plus la consommation augmente. Néanmoins, il est clair que les projets technologiques de motorisation compensent un petit peu cette augmentation de la consommation. Et la moyenne de consommation a tendance à diminuer, mais néanmoins, les véhicules sont de plus en plus lourds.
Mathieu Beglin, quand on entend ces paradoxes-là, est-ce que, je reviens au monde politique, hein, c'est quand même les lois, le législateur, devrait pas avoir quelques trouvailles. Alors, je suis pas là pour faire un plaidoyer pour des taxes ou des mesures dissuasives, mais comment faire pour, ben, quand on voit l'offre de voitures plus petites, plus légères, moins gourmandes, même en énergie grise, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que les gros 4x4, qu'est-ce que vous en dites ?
Pas mal de choses. La première, c'est que dans l'absolu, moi, je suis aussi partisan de la liberté. Et puis, ce serait génial que tout le monde puisse faire selon ses envies. Je pense qu'au bout d'un moment, on sera obligé d'inciter les gens à faire selon leurs besoins et pas selon leurs envies. Parce qu'on attend toujours un peu d'être au pied du mur. Hein. Ça, c'est le genre humain qui semble être comme ça. Et on va se retrouver... Par exemple, on aurait pu développer les technologies dont on parlait avant, il y a 10, 15, 20 ans. On ne l'a pas fait parce qu'il y a encore du pétrole. Puis tant qu'il y en aura, ben voilà.
Mais on a combien de mètres du pied du mur ? avec la voiture.
Mais alors, justement, ça c'est un peu la question, c'est quand est-ce que le bip-bip, quand on recule, va nous dire attention ? Parce qu'on fait aussi des choix de société, de concentration, d'exigence, de mobilité accrue des gens. Et donc, d'un côté, il y a ça, et puis d'un autre côté, ben, après, il y a la question de dire oui, mais alors c'est mal d'y aller trop en voiture. Après, je pense qu'il y a aussi la voiture qui est une marque encore pour beaucoup de gens de réussite sociale aussi. Je me souviens juste de ce spot, mais qui était absolument énorme et qui aujourd'hui, je pense, ferait hurler. C'était en noir-blanc, c'est le pont de l'Alma à Paris, il y a une très jolie femme qui marche, et puis il y a une voiture, une Audi comme ça, qui s'avance au ralenti. Et puis on entend la voix off qui dit « il a l'argent, il a le pouvoir, il a la voiture ». Il aura la femme. Et il s'arrête, la portière s'ouvre, la femme rentre dedans et il part. C'est le paradis sur Terre. Donc voilà. Et je pense, mais c'est un vrai spot, hein, je ne l'invente pas. Et donc pour dire, ce vecteur d'image est important. Ma foi, voilà, c'est comme ça. Donc de là, comment est-ce qu'on arrive à faire ? Genève réussit, Zurich réussit, en ayant un réseau très dense de transports publics, en ayant des parkings d'échange, et en disant aux gens, vous voulez prendre votre voiture pour plein de raisons, d'accord, mais vous la laissez là, et quand vous êtes à l'intérieur de la ville, là où il y a des humains, et c'est la question de l'espace vital aussi dont parlait tout à l'heure Madame Petremont, et bien là, vous prenez des transports publics. Singapour, pour des raisons d'engorgement et de besoin, il faut être 4 par voiture, sinon on n'a pas le droit de circuler. Donc voilà, au bout d'un moment, il va y avoir des nécessités qui vont malheureusement faire passer de l'envie au besoin.
Est-ce que dans les leçons d'auto-école, on ne devrait pas imposer aux élèves un cours spécial d'écologie pour leur apprendre à se répartir les trajets, à faire du covoiturage, à ne pas être seul ? C'est vrai que c'est spectaculaire l'engorgement sous la vue des Alpes dans les deux sens, hein. Le 90% des voitures, mais y compris avec les pendulaires frontaliers, le 90% des voitures, il y a un passager. On fait des voitures 5 places pour une personne en moyenne, le 90% du temps.
Oui, c'est clair. C'est clair qu'il y a des pays qui font une voie où on doit être au moins 2 dans la voiture. Il y a des choses qu'on pourrait faire, mais ça, c'est au niveau politique, ça doit être décidé. Et puis, bon, on a vu à Londres aussi, puisqu'on veut prendre des exemples de Singapour. Maintenant, on sait que le centre de Londres, il y a seulement ceux qui ont de l'argent qui peuvent se permettre d'aller en voiture au centre de Londres. Alors, est-ce que c'est ça qu'on recherche ? Est-ce qu'on veut uniquement autoriser ceux qui ont du pognon d'aller à certains endroits, de payer des péages ? Finalement, moi, j'ai vu certaines choses qui disaient on pourrait augmenter le prix de l'essence, on pourrait faire ces choses-là. Si j'ai de l'argent, je m'en fiche. Au contraire, c'est bien parce qu'il y aura moins de voitures sur les routes et puis il y aura plus de gens dans les trains. Mais il n'y a que certaines personnes qui pourront se permettre ça. Alors, je ne crois pas que c'est tellement ce qu'on veut. Moi, je pense que la liberté, elle doit être pour tout le monde. Et puis, peindre le diable sur la muraille, il y a quand même des villes plus importantes que nous qui s'en sortent, sans imposer aux gens. Moi, ce qui me déplaît beaucoup dans ce qui vient d'être dit avant, c'est de vouloir imposer aux gens. Et puis, on impose avec des parkings d'échange. Le gars qui est déjà bien sympa, qui veut laisser sa voiture à l'entrée d'une ville, on le fait encore payer. Je ne sais pas, il y a peut-être un problème à régler au niveau politique, là.
Marie-Claire Petremont, du côté de l'ATE, est-ce que vous êtes plutôt favorable à des mesures contraignantes ou dissuasives pour inciter, pour encourager les gens, mais pas, j'allais dire, à renoncer. Mais renoncer, ça voudrait dire que c'est un bien forcément très positif, donc à changer sa perception du transport et de passer au transport public. Est-ce que vous êtes pour des mesures contraignantes, pour des taxes, pour des choses dissuasives ?
Bien sûr qu'on est pour des mesures contraignantes, parce que la liberté, c'est bien beau, mais il n'y a pas que la liberté, il y a les nuisances induites par la voiture, il y a des problèmes de pollution, il y a des problèmes de bruit, il y a beaucoup de Suisses qui souffrent de problèmes de bruit, de pollution de l'air, donc à un moment donné, on ne peut plus simplement continuer comme ça, et puis c'est indispensable à notre avis d'avoir des mesures contraignantes
et par
pour
à ce dit...
changer les habitudes et puis essayer de développer de nouvelles habitudes de mobilité.
Dans l'assistance, quand vous entendez le mot mesure contraignante ou mesure dissuasive, donc forcément taxe, on pourrait dire ça comme ça.
Oui, alors, quand on parle de mesure contraignante, ça veut dire que les gens, on leur impose quelque chose, et puis qu'on se dit, parce qu'on va les taxer ou parce qu'ils vont risquer quelque chose, ils vont agir dans le bon sens. Les personnes qui conduisent une voiture aujourd'hui peuvent le faire autrement que ce qu'on a toujours fait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'une voiture, elle consomme, vous parlez de pollution là, tout de suite, ce n'est pas parce qu'une voiture, elle est annoncée avec une production de CO2, de temps, etc., qu'elle va forcément polluer toujours comme ça. la personne qui est, et on le voit très bien avec nos élèves et des personnes qui font des cours de phase, par exemple, on peut leur prouver, noir sur blanc, et ils le pratiquent, on peut leur prouver que s'ils ont le pied un tout petit peu plus léger et que c'est un peu plus intelligent comme ils conduisent, une conduite moderne, on dira, on obtient des résultats avec des consommations beaucoup plus basses, avec du CO2 en moins grande quantité, et surtout, parce qu'on on en a parlé de la pollution et tout, mais la sécurité. La voiture, c'est une chose, mais il y a beaucoup de gens sur la route. On entendait aussi qu'est-ce qui se passe avec les endroits où il y a des gens, etc. On doit faire un compromis. À partir du moment où les gens se comportent de manière plus efficace et plus intelligente avec leur voiture, ça veut aussi dire que c'est des conduites plus anticipées, plus respectueuses de l'environnement et surtout plus respectueuses des partenaires qu'ils ont autour. Et la sécurité va être nettement augmentée et je suis persuadé que ce n'est pas forcément avec des taxes qu'on peut y arriver. Mais c'est mon avis, mais je le dis comme ça, nous avons tous un libre arbitre. On peut choisir ce qu'on veut faire. Ça veut dire que les gens sont capables de choisir s'ils veulent utiliser la voiture, comment ils veulent l'utiliser, et quand ils l'utilisent, que ça soit suffisamment intelligent et fin pour dire « je fais attention, je pollue moins, et en plus, je garantis plus de sécurité ». Parce qu'on voit très bien, ça a été dit, il y a de toute façon plus en plus de voitures.
Plutôt de l'éducation.
C'est une prise de conscience de tous les gens, collective, pour qu'eux-mêmes décident. C'est des adultes, majeurs, vaccinés. Vous pouvez faire ce que vous voulez. S'ils ne veulent pas, ils ne feront pas. Il faut les inciter, mais à un moment donné, il y a une décision personnelle de se comporter d'une certaine manière. Que de la répression, vous oubliez, ça ne marchera pas. C'est mon avis.
Il y a un jeune homme au fond de la salle qui voudrait intervenir. En attendant qu'il ait le micro, juste une question. Dans l'assistance, quand on entend cette option-là, de dire qu'on peut éduquer les gens à conduire plus léger, à évoluer, à devenir plus responsable, est-ce que vous y croyez en matière de voiture? Alors, qui y croit qu'on peut arriver par l'éducation, par la formation? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y a aussi des mitigés, il y a un vote blanc là, M. Jeanneret. Et qui n'y croit pas? Donc, les gens sont plutôt sceptiques, hein, c'est pas une grande majorité, mais voilà. Monsieur.
Oui, bonsoir, Dimitri Parrette. Moi, j'avais juste une observation à faire par rapport à ce libre arbitre des gens qui peuvent choisir de conduire mieux ou je ne sais quoi. On parle beaucoup de pollution et tout ça, mais moi, la principale chose qui me dérange avec la voiture, c'est d'avoir des bouchons tous les jours devant la promenade avec des enfants entre 5 et 10 ans qui n'ont pas du tout le choix de respirer les gaz de voiture et de risquer un accident à chaque fois qu'ils sortent de l'école. Et c'est là qu'on a des graves problèmes dans la ville. On a toutes les rues qui sont complètement occupées par les voitures, que ce soit dans les quartiers résidentiels avec les places de parc ou sur les voies plus rapides où les gens circulent tout seuls dans leur voiture pour aller au boulot. Et c'est ça qui me pose le plus grave problème vis-à-vis de la voiture. Et puis, quelque chose par rapport à ces sauts de génération qu'on évoquait. J'ai élevé la main comme quoi je n'avais pas de permis, je l'aurai bientôt, j'espère.
Ah, vous voyez.
Mais j'ose espérer que quand ma génération décidera, sera dans les bureaux, dans les places dirigeantes, et qu'il faudra un peu planifier le travail de manière, comme on le fait maintenant, on le fera différemment justement, et qu'on n'aura pas besoin d'un permis de conduire pour travailler n'importe où, pour des bêtises, des boulots où on n'aurait absolument pas besoin d'une voiture. On se retrouve souvent avec l'exigence d'un permis de conduire et ce genre de choses. Moi, c'est mon cas, c'est pour ça que je passe.
Pour vous montrer qu'on peut facilement mettre les gens pas complètement d'accord, mais en tout cas en partie, je suis presque sûr que quand vous passez votre permis, si votre moniteur vous propose une heure pour faire du éco-drive, c'est ça que ça, comme ça que ça s'appelle, je crois, modern drive, pour conduire plus léger et moins consommé, vous prendrez.
C'est le principe des deux phases, si j'ai bien compris.
C'est obligatoire.
J'y suis pas là.
C'est obligatoire.
Il y avait une intervention... Oui, attendez, on vous amène le micro. On vous amène le micro.
Vous en avez peut-être déjà parlé, parce que moi j'étais prise dans un embouteillage et après je ne vous ai pas trouvé.
On a attendu trois minutes à cause des embouteillages, ça n'a pas suffi. Désolée, madame.
Non, mais pourquoi déjà ceux qui conduisent beaucoup, qui utilisent beaucoup la route, on ne les décourage pas comme la poste. Avant, c'était par le train. Alors, c'est le transfert rail-route au lieu de l'inverse. Et là, on ne contraint personne. Et moi, je conduis beaucoup plus mon vélo que ma voiture, mais chaque fois, j'arrive à la maison, je dis, ouf, je ne me suis pas fait écraser, parce qu'on a fait un trottoir comme ça pour personne, et puis moi, je suis une petite,
quand
dans
il
une
y a...
petite, là, et puis à la montée, on ne va pas tout droit, hein, et j'ai dernièrement deux dames se sont fait écraser par des camions.
Ben moi, j'allais dire que fois, je vous trouvais courageuse,
alors,
je roule en ville en vélo.
Je n'encourage pas du tout. Ben, ce soir, j'aurais été bien plus vite à vélo, c'est sûr. C'est épouvantable, ces voitures.
Ben, alors, témoignage vécu intéressant. Hein.
Mais on fait des voitures qui polluent moins, mais on les fait plus grosses, donc elles polluent autant. Je ne vois pas l'intérêt pour les gens d'être dans des embouteillages sans arrêt, mais bon, avec des grosses voitures, ce n'est pas mieux.
Il faut faire des barrages de vélo à l'avant des bouchons. Mais j'entends bien.
Comment hein. On ne peut pas résoudre. Plus il y a de routes, plus il y a de voitures sur les routes, plus il y a de kilomètres parcourus. Parce qu'on dit, oh, ça va plus vite, alors je prends ma voiture.
Vous voyez quand même plus, des voies. Vous imaginez des solutions ou vous êtes un petit peu, juste un
non,
peu dépité
ben non, parce qu'en plus, les transports publics sont de plus en plus chers. Alors c'est ridicule. C'est parler pour ne rien dire ce soir.
Alors un témoignage vécu, mais qui montre bien. J'ai dit avant le mot schizophrène et j'ai dit il y a un gros paradoxe entre ce qu'on dit, ce qu'on a envie de faire, et quand on sort d'ici, qu'on voit le bouchon pour venir ici aussi. Donc moi je suis assez d'accord avec vous. Hein. C'est ce que j'ai essayé de faire ressentir avant quand j'ai interpellé par exemple le politique en disant que faire. Alors je ne sais pas les intervenants, qu'est-ce que vous répondez à cette dame ? À tour de rôle, monsieur Grave.
Je peux répondre déjà, monsieur, juste
avant. Oui, pardon.
Oui. Alors, concernant les voitures maintenant, on parle de pollution, de tout ce qu'on veut, des masques à gaz, tout ce qu'on veut. C'est plus tout à fait juste. C'est-à-dire que la voiture actuellement, le parc automobile en 2012 pollue beaucoup moins que dans les années 50-60 malgré l'augmentation de véhicules. C'est une certitude. La voiture maintenant ne pue plus. On peut mettre son nez sur le gaz d'échappement, on ne va pas mourir. Il y aura du CO2. Mais on va pas décéder à cause de ça. Par contre, où il y a un réel problème, c'est les particules fines avec les moteurs diesel. Ça, c'est un problème. Le diesel, je ne pense pas que c'est l'avenir. Et puis, concernant ce qui a été dit avant, une voiture électrique, complètement électrique, je pense qu'il faut oublier. Il y aura de toute façon, à côté, pour la génératrice, il faudra quand même un autre carburant. Parce qu'une voiture électrique, le problème, c'est l'autonomie. Et puis celui qui veut faire 200 kilos pour aller faire du ski ou un truc comme ça, il lui faudra une remorque derrière de batterie. Ça ne sera pas possible. Donc de toute façon, électrique, oui, ça a de l'avenir, mais avec un autre carburant à côté, ça devrait être compensé. Ça, c'est dans les cours qu'on a suivis donc, comme instructeur éco chez EcoDrive. Ils ont quand même des ingénieurs qui connaissent un peu le problème. Donc ça, c'était pour dire avec la pollution. Maintenant, c'est vrai que les bouchons en ville, ben, c'est un réel problème, c'est vrai. Et puis pour madame, où je lui donne entièrement raison, je ne pense pas que ça va faire très plaisir à côté, mais c'est vrai que quand on regarde le nombre de trottoirs qui sont énormes, et puis qu'on envoie des vélos sur la route, alors que le seul piéton qu'il y a, je parle par exemple de l'entrée de Chaux-de-Fonds, que je connais bien, entre le grand giratoire à la sortie des tunnels et l'entrée de la ville, on a mis pendant un bon moment, je suis intervenu pour ça, parce que je trouvais que c'était inadmissible, les vélos sur la route. Alors que les seuls piétons qu'on voit sur ce bout de route, sur ces 500 mètres, c'est celui qui est en panne ou bien celui qui s'est perdu comme piéton. Mais il n'y a aucune raison de se promener là le long. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits où les vélos pourraient être largement plus en sécurité sur les trottoirs. Je vous donne entièrement raison, madame.
En tout cas, du côté des moniteurs d'auto-école, il y a une sensibilité réelle de ce problème-là. Ça, c'est déjà une bonne chose.
De sécurité routière.
De sécurité routière. Mathieu Béglin, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cette dame ? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour lui redonner un brin d'espoir dans... dans ce tableau assez noir du trafic urbain.
Vous dites, je ne sais pas si je vais réussir à lui donner un brin d'espoir, parce que même si on peut tous fermer les yeux puis avoir le monde idéal qu'on souhaiterait, hein, qui défile, on sait bien qu'on doit cohabiter. Puis le premier défi de la mobilité, c'est la cohabitation. On vient de faire un projet à la place Numadro de réaménagement pour permettre aux véhicules de cohabiter. On veut passer en zone 30, arrêter les feux, et puis faire cohabiter piétons, cyclistes, différents types de mobilité douce, et puis voitures. Et on a le TCS et l'Autoclub qui lancent un référendum en disant 30 km/h, ça ira pas, problème de sécurité, etc. Je sais pas où ils voient ça. Koenig, ça fait exactement la même chose. Il y a plus de voitures, il n'y a pas de problème de sécurité, il n'y a pas plus d'accidents et tout. Mais il y a cette idée de dire, voilà, on va m'empêcher de rouler vite. Donc, c'est cette cohabitation qui ne va pas être simple. Ceci dit, un parking d'échange...
Si je vous entends bien, on est encore englué. On l'a vu aussi...
On est toujours dans le combat de base. Hein.
On a envie de faire des choses, mais on a des oppositions.
Mais Monsieur Graff parlait tout à l'heure de référendum. Et ben voilà, ben là, on en a un de plus. La question, finalement, le parking d'échange, ce n'est pas coercitif. On crée une ligne de bus pour ça. On offre la possibilité aux gens. Moi, je pense qu'on doit réussir à devenir aussi pratique en transport public que ça peut l'être.
Mais parking d'échange gratuit.
Non, mais on peut payer pour un parking quand même. Je veux dire, si on a les moyens de s'acheter une voiture et de l'entretenir avec ce que ça coûte par année, on a les moyens de payer son parking. Il ne faut quand même pas rigoler. Quoi.
Madame, on va faire le tour de la table pour les réponses. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à madame quand elle vous dit que c'est désespérant ?
Alors moi, ce qui me touche particulièrement, c'est le prix des transports publics qui augmente. C'est vrai que ça, ce n'est pas du tout un bon signal pour pouvoir justement avoir ce libre choix. En plus, dans le canton de Neuchâtel, on a vraiment raté le coach du RER. Ce qui est aussi très dommage. Donc, tout à l'heure, on a parlé des bouchons sous la vue des Alpes. Pour les voitures, c'est vrai, mais aux mêmes heures, dans les trains, on ne peut pas s'asseoir non plus. Donc, on est bloqué dans toutes les directions en ce moment.
Moi, j'ai un témoignage vécu pour dire à madame que peut-être il y a quand même de l'espoir, mais c'est vraiment au niveau de la qualité de l'offre. J'étais à Bâle hier soir. Je devais aller à la gare pour prendre mon train pour rentrer. Et le bus pour la gare, il me passe sous le nez. Je me dis aïe, 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 aïe. Alors je regarde, il y a un tableau d'affichage. Le bus suivant, vous savez après combien de temps il passait ? Le même bus, la même ligne, après 2 minutes. Et je me suis dit, c'est phénoménal cette ville, c'est génial. On n'a même pas besoin de regarder l'horaire et j'ai eu mon train sans problème. Alors qu'on a des cadences ici pour des bus en ville de Châtel,
C'est 10 minutes.
10 minutes, voilà. Donc, alors c'est aux heures de pointe, hein, je précise. À Bâle, c'était entre 5h30 et 6h30. Ils doublent la cadence, donc ils font des choses pour éviter ces transports publics complètement bouchés. Donc il y a des solutions, j'imagine.
Ça, c'est sûr que je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose du point de vue de mobility. Quand je dis que les différents modes de transport se complètent bien, ce n'est pas juste qu'ils se complètent bien, mais c'est indispensable, en fait. S'il n'y a pas, dans une ville, une offre suffisante de transports publics, on voit que pour mobility, ça ne va pas marcher. Ouais. Parce que finalement, quand les transports publics ne sont pas suffisants, ben chacun a sa voiture, puis toutes les autres offres qui peuvent être alternatives à la voiture privée, elles n'ont pas d'intérêt, donc ça ne marche pas.
Juste avant de donner la parole à monsieur, on finit le tour sur les réponses à cette dame. Madame Petremont.
Voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, le lobby routier est encore bien plus fort que les lobbies piétons et vélos. Et puis j'aimerais aussi revenir sur ce projet de la place Numadro à Neuchâtel. C'est un magnifique projet. C'est un projet qui va dans le sens de nouvelles habitudes, d'aménager les espaces publics où on n'a plus seulement cette domination de la voiture, mais on essaye de partager les espaces avec une cohabitation. Et puis là, alors vraiment, je vous encourage à soutenir ce projet, à ne pas signer le référendum, parce qu'on va dans le sens, là, de quelque chose de nouveau. Et puis je pense que c'est vraiment important de faire des aménagements de ce style pour après faire progresser... une autre relation entre tous les usagers de la route, de la rue, parce que on se rend compte aussi aujourd'hui que la route, eh bien, c'est pas la rue, c'est pas seulement un espace pour circuler, c'est aussi un espace pour se rencontrer, c'est un espace de vie. Et puis c'est la manière dont on a aménagé les rues aujourd'hui depuis les années 60 en réservant le maximum d'espace pour la voiture, eh bien, il faut aujourd'hui passer à autre chose.
Monsieur Burry, vous culpabilisez pas un petit peu ? Vous venez de nous dire que vous immatriculez 2,2% de voitures chaque année ces 2 dernières années. C'est un peu toute votre faute, en fait. Vous devriez refuser d'immatriculer des nouvelles voitures, déjà pour commencer.
Écoutez, effectivement, pour moi, ben, quand j'entends madame, ça ne me fait pas plaisir, effectivement. Je ne suis pas heureux de voir que la mobilité des cyclistes en ville soit plus difficile ou que les piétons ne soient pas en sécurité. Ça, c'est un élément que j'aimerais vraiment clarifier. Après, vous savez, la mobilité, les personnes qui choisissent de prendre leur voiture pour se déplacer, la mobilité résulte souvent, pas forcément d'une décision individuelle, ça résulte de nombreuses décisions politiques qui ont été prises, d'évolutions économiques aussi. Alors, pour donner quelques exemples, je crois que le problème d'aménagement du territoire, c'est vraiment un élément déterminant. Je ne sais pas si parmi vous, des gens jouent au jeu SimCity, quand vous créez votre ville. C'est clair, si vous créez toutes vos zones d'activité économique dans des endroits où vous n'avez pas de transport public, forcément que les gens vont prendre la voiture. Après, vous avez aussi un développement dans la vie professionnelle. Vous êtes de plus en plus mobile, votre lieu de travail devient de moins en moins stable, et puis typiquement une personne qui trouve un travail à Lausanne et qui habite Neuchâtel, quelqu'un qui a une villa ne va pas forcément immédiatement vendre sa villa pour déménager à proximité de son travail. Il va se dire, ouais, si mon travail, je vais peut-être attendre quelques années, et puis peut-être qu'il ne déménagera pas du tout. Un troisième élément qui me semble vraiment particulièrement important, il y a deux choses pour moi qui ont changé dans les habitudes et qui créent une mobilité indiscutablement très élevée, c'est les habitudes en matière d'achat. Ça, faut être tout à fait clair. Par rapport à, là, je prends peut-être plus en arrière, 30 ans en arrière, avec des habitudes d'achat où chacun allait dans des commerces de proximité. Actuellement, systématiquement, les gens prennent leur voiture pour aller dans des centres commerciaux. C'est encore pire. Pour acheter un meuble, les gens vont jusqu'à Lausanne ou à Berne plusieurs fois par année pour acheter un meuble qu'ils vont payer 200 francs. Le trajet est presque déjà plus cher que le meuble. Ça, c'est un élément qui est pour moi assez incroyable. Et puis, vous avez l'évolution en matière d'entreprise. Je dirais, les personnes qui travaillent dans les assurances, c'est un bon exemple, je connais bien ce domaine des assurances. Tout le personnel administratif des assurances se trouve actuellement à Lausanne. Vous avez quelques agents d'assurance qui sont aussi ici au niveau local. Mais par exemple, l'exemple de la Neuchâteloise Assurance est parlant. Ce bâtiment magnifique qui comportait justement un nombre de collaborateurs actifs dans le domaine des assurances, tout ce personnel-là se trouve à Lausanne. Alors, ils n'ont pas tous déménagé à Lausanne. Ils sont avec leur voiture en partie, d'autres avec le train. Ça dépend toujours après aussi sur place, les possibilités, en fait. Le bémol du train, c'est toujours le trajet entre votre domicile et la gare de départ, et puis la gare d'arrivée, et puis votre lieu de destination. À titre privé, je suis un privilégié pour l'instant en tant qu'habitant de Chambrelien. Mais
là, vous avez eu peur avec le...
Non, je ne peux pas dire ça de cette manière-là. Néanmoins, effectivement, je sais que la proximité d'une gare est quelque chose d'intéressant. Et puis, finalement, c'est un privilège, il faut le dire. Alors, c'est clair que habiter à 10 minutes à pied d'une gare, pour moi, ça reste un privilège.
Il y a un monsieur qui voulait intervenir, mais vous deviez répondre aussi à la question. Vous avez déjà répondu à la dame ?
Oui, j'ai...
Oui, alors non, répondu...
Je ne peux pas malheureusement en dire plus.
Alors, monsieur.
Oui, merci. J'aurais une question de détail d'abord à Madame Bellil. Un des inconvénients pour l'instant de l'autopartage, c'est lorsqu'on va à l'étranger. Donc, si on est chez Mobility, on a de la peine à ensuite partir en vacances puis trouver une bonne solution, si je ne me trompe pas, ne serait-ce que dans un pays limitrophe, partir en train jusque, mettons, au sud de la France, à Montpellier, puis avoir une voiture... type Mobility, j'aurais besoin de renseignements à ce sujet-là. Est-ce que ça pourrait se développer à terme ?
C'est un exemple vécu, vous voulez aller à Montpellier ? C'est un exemple vécu, vous avez voulu
non,
aller
non, c'est pas... Mais j'ai pris mon body. Les gens partent plutôt au sud qu'au nord, en grande quantité. Mais la question plus générale, c'est... On parle beaucoup de mobilité, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on doit être mobile ? Et l'exemple qu'a donné Monsieur Burry de la Neuchâteloise, où les gens travaillent maintenant à Lausanne, les bouchons pour aller à Lausanne ou pour aller à Genève, plus les trains bondés pour aller à Lausanne ou pour aller à Genève, sont en grande quantité des gens qui ensuite vont s'asseoir derrière un bureau pour travailler avec un ordinateur et un téléphone, alors qu'ils ont un ordinateur et un téléphone à la maison. Donc, il y a aussi une réflexion à faire. On ne résoudra pas les problèmes de mobilité en ne pensant que à la mobilité et à dire il y a une demande de mobilité, comment la satisfaire. Il faudra probablement, on a parlé aussi d'aménagement du territoire, mais c'est un élément qui est beaucoup plus global et résoudre des problèmes de mobilité par d'autres moyens que simplement dire il faut changer de véhicule ou il faut faire une offre différente de la mobilité.
Je me suis fait la réflexion en entendant M. Bury parler de cette tyrannie de la mobilité. Je me suis dit, la voiture perd un petit peu de son image de réussite sociale et économique. Et c'est peut-être la mobilité qui est devenue un symbole de réussite sociale. J'exagère peut-être un petit peu, mais c'est vrai que quelqu'un qui dit « Ah, moi, je suis mobile, hein, j'aime bien la mobilité, je me déplace beaucoup », on se dit « Waouh, ça, c'est plus parlant, c'est plus enthousiasmant que quelqu'un qui dit « Ah non, non, moi, je ne bouge pas ». Et c'est vrai que la mobilité en soi, c'est comme une nécessité absolue qui est érigée en style de vie, alors qu'au fond, c'est peut-être ça le problème de base, comme vous le dites. C'est une petite réflexion personnelle. Gilles Graff, sur la mobilité à tout prix. Oui,
alors moi, je trouve vraiment remarquable ce que dit Madame de Mobility, parce que vraiment, c'est un choix de société. Moi, j'ai une chance inouïe en ce qui me concerne, c'est de jamais être dans des bouchons. Ben, parce que je n'aime pas les bouchons, je n'ai pas envie d'aller dans les bouchons. Donc s'il y a des bouchons, je prends le train. Je ne veux pas m'amuser dans une voiture à faire 2 heures, 3 heures de plus, ou 1 heure de plus, ou 1/2 heure de plus pour aller à Zurich ou à Genève. Je ne suis pas fou. Il y en a d'autres, malheureusement, qui n'ont pas le choix. Ils doivent se déplacer pour arriver à l'heure au travail, ils doivent se déplacer pour rentrer à la maison le soir, et ils sont pris dans les bouchons. Et là, effectivement, les transports en commun, je pense qu'il y a une grosse lacune, parce que si on savait que 10% des gens, si demain 10% des automobilistes disent « je laisse ma bagnole dans mon garage, je prends le train », eh bien, c'est l'émeute. Les trains, on n'y rentre plus dedans. Il faut bien dire ce qu'il en est. Quand on parle de bouchons, c'est 2 heures par jour. Et quand j'entends dire que c'est le lobby des automobilistes, je suis quand même un peu surpris, parce que quand on voit, il y a Neuchâtel, moi j'encourage les gens à aller voter. Pour ou contre le référendum, je m'en fiche du résultat. Mais on n'est pas dans une dictature, et j'estime que les gens ont le droit de voter, de donner leur avis. Si ma foi, la place du centre de Neuchâtel est refusée à 75%, on saura où on en est. Si elle est acceptée, on saura aussi où on en est. Mais je pense qu'on ne doit pas dicter aux gens leur conduite. Les gens sont grands, sont majeurs, peuvent choisir leur mode de déplacement. Alors qu'on fasse trop de déplacements, moi je rejoins aussi tout à fait monsieur, c'est aberrant de penser qu'on est devant un ordinateur et puis qu'on doit faire 100 km le matin, 100 km le soir, c'est vrai.
Mais juste sur la question de l'aménagement du territoire, de l'aménagement urbain, moi je ne connais pas le dossier de la place du Madro dans les détails, mais quand on entend dire que c'est une façon de redonner un espace au centre-ville qui est vraiment un carrefour où ça circule beaucoup, où c'est beaucoup arrêté au feu, où quand ça passe vite, faire de cet endroit une espèce de plaque tournante plus conviviale, en ralentissant effectivement un petit peu le trafic, le moniteur d'auto-école que vous êtes, vous dites plutôt séduit ou pas ? Plus alors, de trafic du tout ?
Alors, le moniteur d'auto-école que je suis, moi je suis très très sceptique sur les zones 30, parce que c'est des zones qui sont dangereuses. C'est des zones où la plupart des gens ne savent pas comment se comporter dedans. La plupart des gens arrivent dans des zones 30. Il y a même la police cantonale neuchâteloise qui a fait un contrôle de vitesse en croyant qu'ils étaient dans une zone 30 et ils ont contrôlé dans une zone 50. Ils ont dû rembourser les gens. Ils se sont trompés d'endroit.
Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même aller dans cette voie-là ?
Non, la zone 30, je pense que maintenant, on a surtout une politique de conduite parce qu'il y a 50, il y a quelques illuminés qui passent trop vite, qui passent à 60 ou 70, on met à 40. Quand on a le 60, on met un 50 parce qu'on voit qu'il y a des gens qui passent à 80 ou 90, quelques-uns, parce que les chiffres des radars sont assez clairs. La majorité, la grande majorité des gens qui conduisent ne sont pas des assassins, ce sont des gens qui se comportent correctement. Il y a quelques brebis galeuses là-dedans. Et puis, ces zones 30, moi, elles me font particulièrement peur parce qu'il y a des mamans qui pensent encore que leurs enfants ont la priorité par rapport aux voitures.
Mais dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on n'aura de toute façon pas le choix parce qu'avec le nombre de voitures qui seront là, on devra aller moins vite. Et donc, il y aura des zones 30 et on sera plus habitué, il n'y aura plus ces problèmes-là.
J'étais très étonné quand j'ai vu qu'il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas éduquer, qu'on doit j'étais étonné.
Contraindre.
Parce que si on prend l'exemple de l'Irlande, la plupart des villages sont limités à 100 à l'heure. Eh oui, 100 à l'heure en Irlande. C'est de la folie. Mais non, c'est pas de la folie. Parce que si vous allez au pub le soir en Irlande, dans votre village, puis que vous avez roulé à plus que 30 à l'heure dans votre village, malgré que c'est 100, dans le meilleur des cas, vous vous faites insulter, dans le pire des cas, vous vous faites casser la figure. Pourquoi ? Ben parce que vous n'avez pas respecté les gens de votre village, tout simplement. Alors, juste pour terminer avec ça, il y a 20, 30 ans, 40 ans en arrière, il y a 2-3 allumés qu'on a pris pour des allumés, pour des gens qui étaient totalement débiles, de chez Greenpeace, qu'on dit un jour, il faut trier les déchets. Ils étaient que 2 ou 3. À l'époque, tout le monde a dit c'est impossible que les gens trient leurs déchets. On en est où maintenant? Pourquoi on n'arriverait pas avec l'éducation d'apprendre aux gens à conduire comme il faut? Quand on voit chez les jeunes, ça fonctionne. Il y en a un qui ne boit pas, il ramène tous les autres. Pourquoi les jeunes ne pourraient pas dire maintenant, quand tu ne respectes pas, tu es un abruti, tu ne nous intéresses pas, respecte, c'est tout.
Alors une intervention de monsieur, puis après Madame Petremont.
Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Patrick Favre et je fais partie du lobby routier. Je suis membre du comité central de l'ASTAG, président de groupe professionnel suisse Taxi et par ce marché encore propriétaire d'une entreprise de taxi à Neuchâtel. J'ai quelques remarques à faire, pas forcément de questions. La première remarque, c'est que j'apprécie énormément d'une part le fait que vous ayez organisé cette soirée, ce débat. J'adore la manière dont chacun s'exprime de manière ouverte et surtout qui me semble aller dans le sens d'une bonne complémentarité. Les ayatollahs qui auraient été cités tout à l'heure, effectivement, visiblement n'existent pas, en tout cas pas autour de cette table, et je n'en suis pas un.
J'allais vous demander si vous étiez senti visé, vous n'êtes pas senti visé, d'accord.
Justement pas, je fais partie du lobby routier, je le répète. Par contre, je suis détenteur d'un abonnement général que j'utilise beaucoup et qui aujourd'hui fait partie de ma manière de me déplacer. Je ne pourrais effectivement pas faire sans. Quelques remarques par rapport à ce qui a été dit. La première, c'est une boutade. Je suis très heureux, merci M. Graff, de ne pas avoir abondé dans le sens de la suggestion de M. Samali. En tant que taxi, je ne souhaiterais pas que vous fassiez aussi du transport de personnes pendant que vous faites des leçons. Vous avez parlé tout à l'heure des véhicules électriques. Effectivement, personnellement, j'ai de la peine à y croire en lisant les rapports qui sont faits. Vous avez mentionné certains éléments, effectivement, et il y en a peut-être un autre à noter, c'est que du point de vue pragmatisme, on se rend compte que ces dernières semaines, les constructeurs, les uns après les autres, ont annoncé le renoncement à fabriquer des voitures électriques. Le premier était Toyota, il y a environ 6 semaines. Mitsubishi a suivi par la suite. Et on se rend bien compte que le tout électrique pose beaucoup plus de problèmes qu'il n'amène de solutions, raison pour laquelle, visiblement, l'hybride est certainement notre avenir. Vous avez parlé tout à l'heure des taxes de congestion, ou bien du road pricing, ou bien des péages urbains, tels qu'on les appelle. Londres est un exemple intéressant, puisqu'ils ont diminué en 5 ans de 20% seulement la circulation au centre de Londres, 0% de diminution de la pollution et 0% d'augmentation de la vitesse moyenne de déplacement, puisqu'on est toujours à 17 km/h de moyenne aujourd'hui, tel qu'on était en 1795, lorsqu'il n'y avait que des chevaux. C'est assez intéressant à constater. Il y a un point sur lequel j'aimerais m'exprimer aussi tout à l'heure. Vous avez posé la question par rapport à l'EcoDrive. Je n'ai pas levé la main, ni avant, ni après, ni pour, ni contre, parce qu'effectivement, je pense que c'est assez difficile. Je le pratique moi-même. J'ai des consommations personnelles qui sont extrêmement basses et bien entendu très largement plus basses que les prospectus des véhicules avec lesquels je roule. Donc, c'est possible, naturellement. Par contre, une grande partie de notre population roule avec des véhicules qui ne leur appartiennent pas. Donc là, il y a de l'éducation en profondeur à faire, très largement avant qu'on apprenne à conduire, très certainement dans le comportement social, dans le comportement citoyen, puisque le fait de rouler de manière économique ne ferait que partie de cet ensemble pour y arriver. J'en veux pour preuve que si je suis capable de rouler très largement en dessous des moyennes de prospectus avec mes véhicules, mes collaborateurs, eux, roulent très nettement en plus loin, très nettement beaucoup plus haut que les prospectus. Ce ne sont pas leurs véhicules, ce sont les miens, donc ils peuvent accélérer, ça va très bien. Les parkings d'échange qui ont été mentionnés, moi, ça me paraît important. Je vais aussi tout à fait dans le sens de M. Graff. Pourquoi payer les parkings d'échange? Mais surtout, pourquoi n'en avons-nous pas en Suisse? On en a quelques-uns qui s'appellent comme ça. Ce n'est pas réellement vraiment des parkings d'échange tels qu'on peut les voir en Allemagne, par exemple, ou dans d'autres pays, où dans chaque village où il y a une gare, quelle que soit son importance, quelle que soit sa taille, il y a un vrai parking. Un parking qui n'est pas cher. On n'a pas besoin de faire des monuments tels qu'on l'a fait à Lausanne, à Vennes, puisque là, on a dépensé énormément d'argent en béton pour un parking d'échange qui est très cher. Donc, si on arrivait à avoir des parkings d'échange bon marché, et là, naturellement, aussi une question civique, c'est que nous arrivions à éviter qu'il y ait des oppositions à la construction de ce genre de choses, eh bien, certainement, on améliorerait aussi les conditions, parce que je suis tout à fait d'accord d'aller dans le sens de cette complémentarité qui a été mentionnée à plusieurs reprises, c'est de prendre des transports publics là où c'est intéressant de les prendre et économique. Un dernier point par rapport à la technique qui a été évoquée tout à l'heure. Effectivement, j'abonde aussi dans le sens du fait que les consommations moyennes descendent beaucoup et en dépit de l'augmentation du parc, la consommation globale n'augmente pas. Un petit exemple, une Golf de première génération qui pesait 800 kg, aujourd'hui elle en pèse 1200. Elle consomme moins. Merci.
Merci à vous pour ce petit tour d'horizon et de remarques. Madame, vous avez une remarque tout à l'heure? Oui, alors Marie-Claire Petremont qui avait donné la parole.
Moi, je voulais juste prendre position par rapport aux zones 30. Alors là, tu encourages la création de nouvelles zones 30 et le développement des zones 30 parce qu'on considère que ce n'est pas du tout plus dangereux, mais au contraire, beaucoup plus sûr. Déjà parce que quand on va à 30 à l'heure, l'angle de vision s'élargit. On regarde moins loin devant soi, mais on peut regarder de manière beaucoup plus large et voir beaucoup mieux ce qui se passe sur les côtés de la route. La distance de freinage est plus courte. Et puis, en cas de choc, une personne qui se fait renverser par une voiture qui roule à 30 à l'heure a beaucoup plus de chances de survivre que lorsque le choc a lieu avec une voiture qui roule à 50 à l'heure. Et puis, au niveau des mesures contraignantes à l'égard de l'utilisation de la voiture, il n'y a pas seulement des taxes, mais il y a aussi le fait de limiter, par exemple, le stationnement. Et on sait très bien, les études montrent que quand la personne n'a pas sur son lieu de travail une place de parc qui lui est réservée, eh bien, elle va beaucoup plus facilement se mettre à réfléchir à un autre mode de déplacement. Alors, on a souvent des contacts avec les entreprises et on essaye de limiter au maximum les parkings des entreprises pour que les gens viennent autrement au travail.
On pourrait penser aussi à des quotas d'essence par famille, tant d'enfants, tant de kilomètres par rapport à l'école, tant de litres d'essence par mois. Si on dépasse, à pied. Je sais pas. Petit délire. Oui, monsieur. Attendez le micro, peut-être.
Merci. Là, j'entends beaucoup parler de moyens de taxes pour essayer de changer les choses. Je pense toujours que l'incitation à faire autrement est toujours plus efficace que de contraindre les gens, parce que finalement, on s'habitue à la contrainte. Et puis, moi, je suis surtout un partisan du vélo. J'habite à Boudry, je travaille à Neuchâtel, et tous les jours, je fais les retours à vélo. Et puis, je trouve que c'est un moyen qui est absolument extraordinaire, que ça permet aussi de faire son sport de la journée, quand je vois tous les gens qui vont au fitness après encore. Et ben là, je fais tout en un, et je trouve ça absolument génial. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des contraintes, comme disait madame, les questions de sécurité quand on est à vélo, puis qu'on se retrouve face à des espèces de tanks urbains qui sont en face, toutes ces voitures qui deviennent de plus en plus grosses, il faut vraiment être motivé des fois pour pouvoir faire du vélo. J'ai de la chance qu'en Boudry et Neuchâtel, il y a des superbes paysages au bord du lac, des belles pistes cyclables qui sont souvent séparées. Alors, c'est presque l'immense majorité du parcours, mais c'est vrai que les quelques carrefours qu'il faut traverser, des fois, c'est assez difficile. Et surtout maintenant, que c'est encore la période où il fait nuit, dehors maintenant, je vais rentrer tout à l'heure. Alors, je me suis acheté une lampe qui éclaire comme des phares de voiture. Et ça, c'est pratique, mais si on pouvait encore améliorer rendre plus attractif le vélo, j'ai l'impression que beaucoup plus de gens utiliseraient ce moyen que de devoir faire un peu de gymkhana dangereux pour essayer et finalement se dire que le tram, ça risque d'être moins dangereux, la voiture, on est mieux protégé, et puis finalement de mettre en danger plus les autres pour être mieux protégé soi-même.
C'est vrai que quand on vous entend après avoir entendu madame, moi, ça ne me donne pas envie d'aller en ville en vélo, ça c'est sûr.
Et puis, y a pour améliorer, je me disais qu'il y a aussi, là j'ai la chance d'avoir une place où je peux mettre mon vélo toute la journée pendant que je travaille, mais si je devais le laisser dans la rue, même s'il pleut ou si autre, là je crois que j'y réfléchirais aussi un peu plus.
Oui, donc aussi de l'aménagement au niveau des moyens annexes, des transports différents, voilà. Comme le vélo.
Et puis...
Attendez le micro parce qu'il ne faut pas vous entendre les autres. Donc un abri aménagé bientôt à la gare, et madame apprécie. Donc il y a des choses qui se passent, mais
il y a des choses qui se font.
Il faudra payer. Non, non, t'as d'accord. Alors, Mathieu Béglin et Madame Petremont, puis après on arrivera gentiment au terme de ce café scientifique. Donc si d'autres personnes veulent prendre la parole, manifestez-vous maintenant, parce qu'après on va gentiment arriver.
Alors... Déjà, je pense que l'idée qui était développée tout à l'heure par François Borel est juste la question du télétravail aussi, pour toute une série d'éléments, et une des solutions. Après, on fait des abris vélos justement en plus. Au Numadro, il y en aura aussi, c'est payant. Le but dans le réaménagement. Non, là, ce sera gratuit, mais parce que ce n'est pas en ouvrage. Et voilà, et là, justement, tout le monde payant, qui paye quoi? Et là, je pense que là, il y a une éducation peut-être intéressante à faire, c'est une éducation au coût de la voiture. Si on arrive à faire comprendre à un automobiliste que s'il tourne 25 minutes pour chercher une place en surface, moins cher qu'en ouvrage, en fait, il a grillé en essence, en tout ce qu'on veut, tout autant que ce que lui coûtera sa place couverte, eh ben, au bout d'un moment, il ira dans la place couverte. Il y a aussi cet aspect, l'argent étant toujours le nerf de la guerre, finalement. Et puis... Je vois que M. Graff, en tout cas, n'a pas peur des paradoxes, parce qu'il disait qu'il est contre les mesures de contraintes et autres, et puis les taxes. Puis il nous parle du tri des déchets. Ben, il se trouve qu'à Neuchâtel, pour augmenter ce tri, au bout d'un moment, on a taxé les sacs. Alors moi, je ne suis pas fondamentalement pour les taxes, parce que ce n'est pas social, du moment que ce n'est pas proportionnel aux revenus. Mais il y a bien un moment où, si on veut rester libre, il faut être responsable. Parce que sinon, on finit par être contraint par les éléments, par les événements. Et voilà, donc c'est là où ça présuppose une certaine bonne intelligence en tout le monde.
Madame Petremont, après j'y pourrais répondre, Madame Petremont, vous voulez.
Par rapport au stationnement payant à la gare de Neuchâtel, il y a un certain nombre de places vélo qui sont gratuites, qui continueront d'être gratuites. Et puis là, c'est une nouvelle offre qui est créée où il s'agira de pouvoir laisser des vélos en étant sûr qu'ils ne pourront pas être l'objet de déprédation.
Donc, place gardée, donc il y a une offre supplémentaire.
Place gardée, il y a une offre supplémentaire et personne ne sera obligé d'aller mettre son vélo là. Ceux qui veulent pourront toujours les mettre dans des parkings gratuits, mais là, il y a vraiment une prestation complémentaire. Et puis, je trouve ça c'est extrêmement intéressant parce que souvent, quand on laisse son vélo la nuit à la gare, on n'est pas sûr de le retrouver en bon état le lendemain matin.
Il paraît qu'il y en a certains dans des champs de maïs. C'est un autre débat. Gilles Graff, ça sera votre mot de la fin parce qu'on arrive gentiment.
Oui, quand j'entends parler de paradoxe, je ne vois pas où il y a un paradoxe parce que je pense que les gens en Suisse trient très bien leurs déchets. Cette taxe, je pense que c'est qu'un truc politique, mais ça, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas ici pour parler des taxes poubelles. Mais une autre chose que je peux dire à M. Béglin, je pense que celui qui pose sa voiture dans un parking gratuit, il fait déjà un grand effort. En plus, avec les taxes qu'il paye, avec les taxes sur le carburant, qui sont ristournées pour les transports en commun, c'est quand même un droit légitime de poser sa voiture dans un parking qui est gratuit, parce que c'est quand même lui à quelque part avec ses taxes qu'a payé son parking. Et puis moi, j'allais même plus loin. Le gars qui renonce à sa voiture dans une ville, hein, il a tellement de mérite qu'il devrait avoir les transports en commun gratuits en présentant son permis de circulation, parce que c'est une voiture de moins et son billet de bus. Mais quand je l'ai proposé... dans les milieux écologiques, il y a 10-15 ans en arrière, cette chose-là, on m'a dit « ouais, c'est super », et puis après on a réfléchi, on a discuté, et puis politiquement, c'est pas correct, alors ça marche pas.
Les Verts du Locle ont tenté un projet avec les transports publics gratuits en ville du Locle, qui n'a pas abouti. Alors le mot de la... avec le permis. Le mot de la fin pour Mme Petremont.
Je voulais juste dire par rapport au P plus R, pourquoi ils sont payants, c'est que souvent, malheureusement, ces parkings, quand ils sont gratuits, ils sont utilisés par des usagers qu'on ne souhaite pas voir dans ces parkings. Par exemple, au Crédit Locle, un P plus R gratuit qui devrait servir à des gens qui veulent prendre le train, et puis il est situé juste à côté d'une entreprise où les employés viennent chaque jour complètement occuper ce parking, et il n'est plus à disposition des gens qui veulent prendre le train.
Là aussi, des questions de responsabilité personnelle, de conscience personnelle. Madame Bellil, votre mot de la fin par rapport à Mobility, quand vous entendez ce qui s'est dit ce soir, vous êtes sereine, vous dites faut qu'on y aille, on a des belles cartes à jouer.
C'est sûr que Mobility, c'est une offre qui a de l'avenir. Ça permet d'avoir les avantages de la voiture tout en ayant aussi les avantages du train à un prix tout à fait abordable. Maintenant, c'est vrai que dans le canton de Neuchâtel, comme je vous disais, on a encore des freins qu'il faudra lever.
Alors, Monsieur Burry, on ne vous a pas entendu depuis un moment, alors peut-être votre mot de la fin. Je ne sais pas s'il y a des interventions. Il y a monsieur qui voulait dire aussi quelque chose dans la salle. Donc, peut-être qu'on va le laisser prendre la parole, comme ça vous pourrez conclure, vous, puis on pourra conclure.
Oui, c'était pour faire une remarque par rapport aux zones 30. Les statistiques qui sont parues ont montré que ces années passées, il y a eu une augmentation. Si on regarde le respect de la limitation de vitesse, le 30 à l'heure a été beaucoup plus en frein. Donc, c'est vraiment remonté. Donc, les gens ont de la peine avec le 30 à l'heure. La plupart du temps, on le voit avec beaucoup de gens, ils ne savent pas ou ils ne regardent pas assez qu'ils sont dans une zone 30. Et je finirai en disant qu'on vient d'en créer une à Serrières, au Batieux. Je ne sais pas si certains l'ont déjà vue ou sont déjà passés. Vous connaissez la rue, elle est très raide. C'est hyper dangereux. Quand vous passez là et que vous sortez et que vous avez la priorité, il ne faut pas croire que ça va passer comme ça. Les gens vous passent devant, ils n'ont aucune idée que c'est des zones à 30 et ils ne les respectent pas. C'est celui qui s'est dit, tiens, on va mettre une zone 30 là dans une pente pareille, mais il a rêvé debout, ça va être super mortel. Donc des fois, ce n'est pas toujours bien pensé, hein, le 30 à l'heure.
Donc
oui,
problème des zones 30, on l'a évoqué, d'accord. Okay. Est-ce qu'il y a une autre intervention dans la salle avant qu'on conclue avec M. Bury? Donc plusieurs paradoxes autour des zones 30, on voit que ça interpelle dans tous les camps. Monsieur, votre intervention,
bonjour. On va conclure. Bonsoir. Stéphane Robert, j'habite un petit bled qui s'appelle Fretreul. Moi, sans la voiture, je ne peux pas me déplacer, c'est impossible, je n'ai pas de transport public, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il n'y a rien du tout, mais pourtant, il y a quand même environ 8000 voitures qui passent chaque jour, dans un sens et dans l'autre. Mais je dirais comme ça qu'en gros, à mon avis, en écoutant cette soirée, c'est vraiment d'avoir une éducation. Après, si tout le monde a cette éducation d'aller dans l'avant, on est tous sur le même accord. Quand on s'arrête vers une intersection, peut-être même à Boudevillers, par exemple, j'y étais il n'y a pas longtemps, ça fait peur. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures qui passent. Puis c'est incroyable, ça défile. Je suis jeune, mais je n'oserais même pas traverser par là, quoi. Donc oui, je pense que c'est l'éducation.
Ben, merci pour ce. C'est déjà presque un mot de la fin en disant que si on arrive à éduquer les gens, à conscientiser les gens et à sensibiliser à ces problèmes, puis qu'on va tous, comme vous le dites, dans la bonne direction, ben, ça peut s'améliorer. Monsieur Bury, votre mot de la fin, et après on va faire conclure.
Oui, alors je crois aussi à l'éducation, effectivement. D'ailleurs, la preuve en est que le nombre de morts sur les routes en Suisse a été réduit de manière drastique, puisque bon, il reste. Chaque mort est un mort de trop, bien entendu, mais le nombre de morts sur les routes en Suisse est à peu près 300 annuellement, alors qu'il était de plusieurs milliers il y a 30 ans en arrière. Ce que j'aimerais encore dire, peut-être pour le mot de la fin, c'est que contrairement alors à M. Favre, c'est un sujet où on n'est pas d'accord, je pense que l'avenir de la voiture électrique existe, et je pense que technologiquement, c'est quelque chose qui va fonctionner. Au niveau ce qu'il faut retenir, je dirais, de notre discussion de ce soir, je crois que c'est le mot complémentarité. Il faut être clair, la mobilité sera complémentaire. J'ai pris avec, comme preuve, finalement, ma carte mobility. Donc, vous voyez, la carte mobility du service des automobiles, c'est un symbole, peut-être.
Joli symbole.
Qui montre que finalement, même en tant que personne active dans le domaine de l'automobile, on est aussi ouvert à toute forme de mobilité. Voilà, c'est pour moi l'élément essentiel. Dans les pistes, il y a peut-être des pistes encore intéressantes. Je pense qu'il est clair que le covoiturage reste un élément qui doit être encore un petit peu travaillé. D'avoir 90% des gens qui sont seuls dans une voiture à 5 places, c'est effectivement pas tout à fait logique. Et puis il y a un autre point dont on parle jamais, qui faisait partie de ma jeunesse, c'était l'autostop. L'autostop, ça n'existe plus. On n'en fait plus souvent pour des raisons de sécurité. Mais je me disais une fois que si on arriverait à faire ça de manière intelligente, une application iPhone qui permettrait, je sais pas moi, à quelqu'un qui serait d'accord de prendre des autostoppeurs, d'être repéré, et puis dans des zones où on assurerait plus ou moins cette sécurité, il pourrait y avoir avec l'autostop un moyen de réduire le trafic.
Vous savez qu'il existe, notamment un pays au monde où l'autostop est une tradition incontournable, c'est Cuba.
à toutes les entrées et les sorties de grandes villes de Cuba, il y a des endroits qui c'est les points de pick-up, hein, où on prend des gens en charge. Et les gens vont là. Alors quand le bus arrive, ils montent dans le bus, mais toute voiture vide qui arrive, c'est quasiment une obligation. Je crois que c'est en tout cas, c'est dans les mœurs. Les gens s'arrêtent et disent « Tu vas où ?» et ils embarquent 2-3 personnes et ils partent. Donc il n'y a pas une voiture qui sort d'une ville avec qu'une seule personne. Moi, j'avais été frappé. Je trouve que c'est d'une simplicité incroyable. En plus, ils rencontrent du monde, ils discutent. Donc, voilà.
Effectivement, l'autostop a deux avantages. Il y a l'aspect transport, puis il y a l'aspect de la convivialité, effectivement, de la rencontre. Moi, ça m'arrive, je dois dire. Maintenant, je travaille à notre nouveau centre de Malvillers, puis qui est desservi de manière relativement moyenne en transport public. Et puis...
Aménagement du territoire, magnifique exemple.
Mais j'ai bon espoir que ça s'améliore. Il y a souvent des élèves du centre pédagogique de Malvillers qui prennent le bus jusqu'à Boudevillers, puis qui font de l'autostop le long de la route en montant à pied. Je m'arrête assez régulièrement pour les prendre, et puis je trouve ça assez sympathique, finalement.
Merci. Est-ce que tout le monde a eu son mot de la fin ? Je crois. Alors moi, j'aimerais d'abord remercier les participants pour tout ce qu'ils ont apporté, tout ce qu'ils ont indiqué, aussi les intervenants dans la salle. C'est difficile de faire une conclusion, parce qu'on se rend compte, en tout cas moi, je me suis rendu compte d'une chose qui est évidente, c'est que ça reste un phénomène. Alors c'est un mot très à la mode aussi, c'est complexe, c'est la complexité, hein, parce qu'il y a l'aménagement du territoire, il y a l'environnement, il y a l'énergie, il y a les engorgements, il y a les réalités du trafic urbain. Moi j'aime bien le côté éducation, j'ai le sentiment aussi qu'il faudrait que tout le monde ait le recul critique, la petite introspection de se dire mais... Est-ce que vraiment, là, la voiture, c'est indispensable ? Et moi, à titre personnel, alors je peux l'avouer, je sais que souvent, ça m'arrive par un peu flemmardise, un peu à me dire « Ouais, mais il y aura du monde dans le train. Ouais, mais je devrais marcher sous la pluie jusqu'à chez moi, donc on prend la voiture. » Et là, j'ai le sentiment qu'au niveau de la responsabilité personnelle, de la conscientisation, puis de l'honnêteté personnelle, il y a beaucoup à faire. Parce que la voiture, on l'a vu aussi ce soir, ça continue quand même de réveiller beaucoup d'émotions et puis de choses très, très personnelles. Alors voilà, la bagnole, plein gaz ou à la casse, moi je dirais plein gaz, mais avec beaucoup de changements, puis beaucoup de choses à mettre en place pour arriver à une complémentarité, puis pour arriver à lui préserver un avenir. Et aussi avec la question de la mobilité à tout va, moi je dirais plein gaz à la mobilité, en tout cas pas, quoi. Coup de frein à la mobilité, ou bien alors une mobilité en tout cas intelligente et nécessaire. Mais la mobilité luxe, c'est peut-être ça le grand travers, le grand dérapage de la voiture aujourd'hui, c'est cette mobilité peut-être pas assez cher payé, pas taxé, mais qui ne nous coûte pas assez. Donc un luxe trop bon marché, peut-être. Ça, c'était mon mot de la fin. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Ou est-ce qu'on peut s'arrêter là ? Si vous êtes d'accord, on peut les applaudir. Merci. C'était le dernier café scientifique de l'année 2012, mais la saison 2013 est prête. Vous pouvez prendre en partant le programme de l'année 2013. Juste pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous dis les deux premiers. Le 16 janvier, c'est la gestion des déchets, un nouveau business. On a parlé du tri des déchets ce soir, donc vous avez vu que tout est lié. Et puis le 13 février, loup y es-tu et qui mangeras-tu ? Vous savez que le loup est en Franche-Comté, on a vu des traces. Nous, on a fait le pari que cet hiver, il y aura un loup qui va se pointer dans le canton de Neuchâtel. Il va juste passer, mais il va passer. S'il passe avant le 13 janvier, on aurait été visionnaire. Je remercie aussi Igor Chlebny qui a préparé ce café scientifique. Moi, je l'ai repris à la volée après. Et il avait trouvé un bon titre, mais après coup, il a dit « plein gaz pour la bagnole ». Il a dit aussi « on aurait pu appeler ça crash test pour la voiture ». Donc, merci Igor. Merci à tous, puis bonne fin de soirée. Bon retour chez vous, en voiture, en vélo ou en transport public. Ou à pied.